Seigneur, tu nous connais, tu sais que parfois il est difficile pour nous d'entendre des mots qui viennent de toi, mais ce matin nous voulons vraiment être réceptifs à toi. Te prions s'il te plaît que ton esprit œuvre en nous et que tu puisses vraiment travailler au plus profond de nos cœurs et de nos pensées pour que nous puissions chacun repartir de ce lieu avec une pensée de toi, un message de toi et aussi un encouragement à vivre et à persévérer dans notre vie chrétienne. Je te prie particulièrement peut-être pour des personnes qui ont commencé à cheminer dans la foi mais qui se sont arrêtées, peut-être des personnes qui ont peut-être été déçues de la vie d'église ou d'autres situations, que là aussi tu puisses leur parler ce matin et vraiment les amener à recommencer ce cheminement avec toi. Seigneur, c'est ma prière et sers-toi de moi s'il te plaît. Amen. Alors, parfois, je pose des questions quand je découvre que de nouvelles personnes me disent « voilà, je suis chrétien ». Et je leur pose la question « mais qu'est-ce qui te fait dire que tu es chrétien ?» Alors, parfois, j'ai des réponses qui sont un peu surprenantes. Certains me disent « en fait, moi, j'obéis à Dieu et le soir, à chaque fois avant que je me couche, je prie et je lui demande pardon et je sais que je suis avec lui ». Alors, je demande, et si tu as oublié de prier, qu'est-ce qui t'arrive? Alors, parfois, ça fait un gros creux. D'autres diront aussi, en fait, quand moi, je sais que je suis chrétien, parce que quand je prie, Dieu me répond toujours. Il se passe plein de choses. Quand je demande à Dieu une guérison, quand je demande à Dieu une augmentation de salaire, je l'ai. Je fais, oui, tu as de la chance, Dieu t'écoute. Mais c'est vrai qu'on est un peu tous repris là-dessus et... Et à un moment, Jésus lui aussi parlera de ça et il dit ceci. « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père céleste. Beaucoup me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom ?» Alors je leur dirai ouvertement, c'est Jésus qui dit cela, « Je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. » J'ai l'impression que tout est dans l'intro, on pourrait s'arrêter là pour la prédication, mais vous allez comprendre qu'aujourd'hui nous allons parler de l'obéissance, c'est un sujet difficile. On préfère souvent parler de liberté, de prospérité, de miracle. Et pourtant, nous allons voir que l'obéissance et la dépendance à Dieu sont nécessaires pour conquérir notre héritage, mais aussi recevoir les bénédictions que Dieu veut nous donner. Sans obéissance à Dieu, nous ne pouvons pas vivre ce que Dieu veut pour nous. Et nous allons voir que Dieu bénit l'obéissance, car Dieu est un Dieu protecteur, Dieu est un Dieu souverain, et Dieu est un Dieu victorieux. Alors, on va continuer notre série sur le livre de Josué. Alors là, c'est un quiz, parce que là, ça ne fait pas juste une semaine, ça fait au moins 2 semaines. Oui, je crois. Vous vous souvenez du dernier épisode de la prédication de Josué? Qu'est-ce qui s'était passé?
Dieu l'a encouragé.
T'as dit quoi?
Dieu l'a encouragé.
Oui, qu'est-ce qui s'est passé de particulier? Oui, ils ont traversé le Jourdain. C'est un moment particulier, le Jourdain qui s'assèche, tout le peuple, des centaines, des milliers de personnes qui traversent à sec le Jourdain, et le Jourdain se referme derrière eux. Boum. C'est ça qu'on a vu la dernière fois, Dieu agit de manière miraculeuse. Et aujourd'hui, nous lisons la suite, donc qui se trouve dans Josué 5. Et on va le lire un peu au fur et à mesure, parce qu'on va faire 2 chapitres, on ne lira pas tous les versets non plus. Mais au verset 1, donc de Josué, chapitre 5, verset 1, gardez votre Bible sur les genoux si vous l'avez. « Lorsque tous les rois amoréens qui se trouvaient à l'ouest du Jourdain et tous les rois de Canaan, près de la mer Méditerranée, apprirent que l'Éternel avait asséché l'eau du Jourdain devant les Israélites jusqu'à ce qu'ils aient traversé, ils perdirent courage et leur esprit fut abattu devant eux. » Dieu, par ce miracle, à la fois encouragé, comme l'a dit Ming, le peuple d'Israël pour leur montrer, je vous ai ouvert la porte. Mais en face, les rois qui ont entendu ça, peut-être certains ont vu ça, eux, ça leur a donné la crainte et la peur de l'Éternel. Ils se sont dit, il y a quelque chose de plus puissant que nous qui est en train d'arriver. Donc un miracle, ça a toujours deux sens. Ça peut nous faire du bien, mais c'est aussi là pour témoigner aux personnes autour de nous. Peut-être que Dieu est bon, mais aussi que Dieu est puissant, que Dieu maîtrise toutes choses. Et on continue au verset 2. À cette époque-là, l'Éternel dit à Josué, « Fais-toi des couteaux de pierre et circoncis une nouvelle fois les Israélites. » Josué fit des couteaux de pierre et circoncis les Israélites sur la colline d'Aralot. Voici la raison pour laquelle Josué les circoncis. Tout le peuple sorti d'Égypte, tous les hommes de guerre, étaient morts dans le désert pendant la route après leur sortie d'Égypte. Or, tout ce peuple sorti d'Égypte était circoncis, tandis que le peuple né dans le désert pendant la route après la sortie d'Égypte n'avait pas été circoncis. En effet, les Israélites avaient marché 40 ans dans le désert, jusqu'à la destruction de toute la nation des hommes de guerre, qui étaient sortis d'Égypte et qui n'avaient pas écouté l'Éternel. L'Éternel leur avait juré de ne pas leur faire voir le pays qu'il avait juré à leurs ancêtres de nous donner. Pays où coule le lait et le miel, un pays avec plein d'abondance. Ce sont leurs enfants qu'il donnera à leur place. Et Josué les circoncis. Ils étaient en effet incirconcis, puisqu'on ne les avait pas circoncis pendant la route. Lorsqu'on eut fini de circoncire toute la nation, ils restèrent sur place dans le camp jusqu'à leur guérison. Et là, nous allons voir que Dieu est un Dieu protecteur. Après la traversée spectaculaire du fleuve, Dieu donne un ordre à Josué. Fais-toi des couteaux de pierre et circoncis une nouvelle fois les Israélites. Alors, je vais vous rassurer tout de suite, ils n'ont pas été circoncis plusieurs fois. Ça serait compliqué et ça pourrait faire encore plus mal. Mais c'est un ordre qui est vraiment surprenant. Stratégiquement, qui aurait choisi de le faire maintenant ? À vue humaine, ce n'est ni le bon lieu, ni le bon moment de faire ça. Pourquoi ? Ils sont en pleine invasion, ils sont en train d'envahir un pays qui est hostile. Et les hommes vaillants, les soldats, seront incapables de défendre le camp et pendant plusieurs jours. Pendant plusieurs jours, ils seront incapables même de faire peut-être des gestes du quotidien, même peut-être se promener ou même chercher la manne, c'est peut-être compliqué. Et en cas d'attaque, tout le peuple serait décimé très rapidement. Rappelez-vous, ils viennent de traverser le Jourdain et ils sont au pied de la grande ville fortifiée de Jéricho. Et là-dedans, il y a plein de soldats qui sont prêts à leur foncer dessus. Et je me dis, mais finalement, c'est un peu comme si des secouristes, vous savez, des secouristes de haute montagne, ceux qui vont intervenir en montagne pour vous chercher quand vous avez peut-être fait un accident de ski, ils prenaient leur congé annuel pendant les vacances d'hiver. C'est un peu pareil. Les soldats sont indisponibles alors qu'il faut faire une invasion. C'est ça la situation. Et pourtant, c'est le moment, le lieu, le moyen que Dieu utilise pour montrer à son peuple la puissance de son nom. Les rois du pays sont terrifiés, pétrifiés devant ce Dieu qui est aussi puissant pour ouvrir le Jourdain. Et Dieu demande à Israël de lui faire pleinement confiance. Les Cananéens devaient être vraiment consternés. Imaginez, ils vous envahissent, ils commencent à s'installer, à se circoncire, sachant qu'ils ne pourront pas se battre. Ils devaient vraiment être consternés. Mais qu'est-ce qu'ils pensent ? Ils doivent vraiment être certains de ce qu'ils font. Ils doivent avoir confiance en un grand Dieu. Et ils ignorent complètement toute cette puissance militaire qui est autour d'eux. Et toutes les nations sont tétanisées dans la puissance de Dieu. Ils ne font rien. Ça, c'est seulement le nom de Dieu qui est capable de faire cela. Ce n'est pas quelqu'un qui a juste de l'éloquence, c'est seulement Dieu qui peut faire cela. Et alors la question, c'est pourquoi ne sont-ils pas circoncis ? Mes amis, il y a une relation à restaurer. Et c'est de ça qu'il est question ici. Peuple dans le désert n'a pas été circoncis pendant la route après la sortie d'Égypte. La seconde génération n'a pas été circoncis durant toute la traversée du désert pendant 40 ans. Pour plusieurs raisons, mais je pense que la principale et celle qui me semble la plus cohérente, elle se trouve dans Nombre, au chapitre 14, verset 31. Vous avez mis 40 jours à explorer le pays. Vous supporterez donc les conséquences de vos fautes pendant 40 ans. Une année pour chaque jour. Ainsi vous saurez ce que c'est d'être privé de ma présence. » Là, pourquoi ne se sont-ils pas fait circoncire? C'est comme si l'alliance que Dieu a faite avec le peuple d'Israël était en suspens. L'alliance est suspendue avec cette génération qui est rebelle, qui est désobéissante et qui les a précédés. Et c'est pourquoi Dieu, en quelque sorte, il substitue leur fils pour restaurer cette relation avec eux, restaurer cette alliance. Mais c'est là qu'on découvre que Dieu reste fidèle malgré nos infidélités. Cela consiste à démontrer maintenant à cette nouvelle génération qui rentre dans cette alliance. C'est pour ça qu'on voit beaucoup d'éléments qui sont très proches de ceux qu'a vécu le peuple avec Moïse, comme l'ouverture de la mer des roseaux, maintenant c'est l'ouverture du Jourdain, et ainsi de suite. Dieu est en train de les encourager, de dire « Je suis encore ce Dieu qui est là avec vous. Je suis là. » Et alors, quelle est cette alliance? Cette alliance, en fait, elle a été conclue il y a très longtemps entre Dieu et Abraham. Des centaines d'années avant l'entrée dans le pays promis. Et là, ils sont en train de vivre cela. Ça devait battre dans leur cœur. Eux, ils se rappellent de ce verset qui se trouve dans Genèse 17, verset 8. C'est Dieu qui dit cela. « Je te donnerai à toi et tes descendants, après toi, le pays où tu séjournes en étranger, tout le pays de Canaan. Il sera leur propriété pour toujours et je serai leur Dieu. » Dieu dit à Abraham, « Quant à toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, au fil des générations. Voici quelle est mon alliance, celle que vous garderez entre moi et vous, ainsi que ta descendance après toi. Tout garçon parmi vous sera circoncis. » Et là, on est en train de voir sous nos yeux Dieu qui est en train d'accomplir cette promesse qu'il avait faite à Abraham il y a des centaines d'années. Parce que Dieu prend plaisir à l'obéissance. L'obéissance est la clé pour être en relation avec Dieu et vivre ses promesses. Et ils restèrent là jusqu'à ce qu'ils soient guéris et l'alliance restaurée. Alors, que retenir de ce passage pour nous aujourd'hui ? Déjà, Dieu restaure la relation avec des personnes qui l'appellent. Et ce, malgré les circonstances, même si peut-être pour toi tu dis « c'est pas le bon moment », Dieu te dit « c'est le bon moment, je veux restaurer cette relation avec toi. Tu peux venir vers moi, tu peux te repentir. » Ces promesses, celles de Dieu, sont sûres, certaines et s'accomplissent au moment où Dieu l'a décidé. Et ça nous amène à la patience comme ce peuple qui a dû attendre 40 ans pour de nouveau vivre cette relation, rester avec Dieu. Et Dieu n'attend pas des exploits de notre part, mais il attend de nous l'obéissance et l'adoration. Et cela nous rappelle une vérité fondamentale. Nous sommes tous privés de la présence de Dieu depuis notre naissance en raison de notre péché qui est hérité de nos descendants qui sont Adam et Ève. Nous avons tous à rentrer dans cette alliance de paix que Dieu nous propose, d'être en paix avec Dieu, d'être dans cette relation avec Dieu. Et cela n'est possible qu'en Jésus-Christ, parce que Jésus s'est sacrifié lui-même pour restaurer cette alliance. Cette alliance, elle a un prix. Avec Abraham, c'est Dieu qui a conclu cette alliance, et là, c'est de nouveau Dieu qui conclut cette alliance par Jésus-Christ. Et la différence, c'est que désormais, ce n'est pas une alliance qui est scellée par une circoncision en enlevant un morceau de peau, mais elle est marquée par le fait que Dieu vient habiter en nous par le Saint-Esprit. Et c'est ça qui nous scelle, qui fait qu'on ne peut pas revenir en arrière. Et c'est une alliance à célébrer. C'est aussi pour cela que nous nous réunissons dimanche après dimanche, parce que nous célébrons cette alliance que Dieu a scellée avec nous par Jésus-Christ. L'Éternel dit à Josué, verset 9, « Aujourd'hui, j'ai fait rouler loin de toi, loin de vous, la honte de l'Égypte. À cet endroit, et cet endroit était appelé Gilgal jusqu'à aujourd'hui. Les Israélites campèrent à Gilgal. Ils célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois, sur le soir, dans les plaines de Jéricho. Ils mangèrent du blé du pays le lendemain de la Pâque, des pains sans levain, du grain rôti. Ils en mangèrent ce jour-là. » La manne cessa le lendemain de la Pâque au moment où ils mangèrent du blé du pays. Les Israélites n'eurent plus de manne et ils mangèrent des produits du pays de Canaan cette année-là. Et là, cette, cette alliance, elle a besoin d'être célébrée, célébrer la restauration de cette alliance. Moi, je me dis que là, à ce moment-là, après avoir attendu depuis Abraham d'entrer dans ce pays, peut-être d'avoir attendu pendant 40 ans de pouvoir de nouveau célébrer la Pâque, cette Pâque, elle a vraiment un goût particulier, un goût qu'ils attendaient depuis longtemps, le fait de pouvoir profiter pleinement de tout ce que Dieu leur a réservé depuis longtemps, de célébrer ce Dieu qui les a sauvés. Et Dieu déclare que dans ce processus de rétablissement, qu'il a roulé loin de la honte de l'Égypte. Lorsqu'on est de nouveau dans cette alliance avec Dieu, Dieu enlève cette honte de la désobéissance, cette honte du péché, parce que Dieu nous purifie, nous rend saints. Et la honte, elle est consécutive à la désobéissance. Et la question que je me pose et que je nous pose à chacun d'entre nous ce matin, c'est « Mais comment est-ce qu'on peut appartenir à un maître si on ne lui obéit pas ?» Comment est-ce qu'on peut dire qu'on appartient à Dieu si on ne lui obéit pas? Et la restauration de l'alliance, elle éloigne justement cette honte de la servitude du péché, la servitude peut-être de dépendance. Et là, maintenant, par cette marque de circoncision, cela identifie clairement, physiquement, qu'ils appartiennent à Dieu. C'est comme un tampon qui est sur eux. Vous appartenez à Dieu. Nous avons aussi un tampon. C'est le Saint-Esprit qui vit en nous et qui nous amène à ressembler de plus en plus à Jésus. Et cette alliance, elle est manifeste, elle est effective. Et il y a des conséquences quand on est en relation avec Dieu, lorsqu'on obéit à Dieu. Et là, le timing est parfait. Ils peuvent célébrer la Pâque. 40 ans dans le désert, ce temps d'attente de la délivrance. Et cette relation qui était perturbée avec Dieu, tous les jours, ils se souvenaient dans ce désert, nous avons désobéi à Dieu. C'est pour ça que nous sommes là. Une génération entière a été comme engloutie par le temps, comme l'érosion, vous savez, sur les falaises, avec les vagues qui tapent successivement, jour après jour. Et c'est ce qu'ils ont vécu par leur désobéissance. Mais il est enfin temps, il est temps de fêter la Pâque tous ensemble. La fête, elle a été établie de la Pâque, vous savez quand? La Pâque, la première qui a été célébrée? Oui, en Égypte. Et la Pâque, en fait, elle a été célébrée juste avant le départ d'Égypte. Donc, c'était une fête par anticipation. On se réjouissait déjà de ce que Dieu a fait. Et cette Pâque, elle rentre aussi dans le cadre du sauvetage de tous les premiers-nés des Israélites. Et il est dit cela dans Exode 12, 26. Et lorsque vos enfants vous demanderont que signifie ce rite pour vous, donc la Pâque, vous répondrez, c'est le sacrifice de la Pâque en l'honneur de l'Éternel qui est passé par-dessus les maisons des Israélites en Égypte lorsqu'il a frappé l'Égypte et a sauvé nos familles. Le peuple s'inclina et adora. Ça nous rappelle que nous aussi, en tant que parents, nous avons besoin de rappeler ces choses-là à nos enfants, que Dieu est là pour les secourir, Dieu est là pour les sauver. Et nous avons besoin de vivre cet acte d'adoration. Et là, je me dis, mais imaginez juste la joie que ça devait être dans ce camp, en train de fêter, en train de manger ensemble, de se réjouir du fait que Dieu les a sauvés. Dieu leur a donné leur héritage. Et sauvetage des premiers-nés d'Israël est allé à son terme. Peut-être que parmi eux, il y a des personnes, des enfants, ils avaient peut-être 6 ans, 7 ans, 8 ans. Ils se souvenaient quand ils sont partis de chez eux, partis de la maison, avec les plaies d'Égypte qui venaient de s'abattre, avec des morts autour d'eux. Ils se sont mis en route et ils ont commencé à traverser ce désert. Et là, au bout de 40 ans, ils sont arrivés à destination. Et pour nous aussi, parfois, on met du temps à faire ce cheminement avec Dieu, mais si on s'accroche à Dieu, peut-être que ce n'est pas facile tous les jours. Nous savons que notre héritage à nous aussi, il est garanti, il est sûr et certain. Peu importe les pandémies, peu importe le terrorisme, peu importe tout ce qu'il peut y avoir autour de nous, l'héritage de Dieu est sûr et certain pour nous. Nous pourrons être avec Dieu pour l'éternité. Et cette Pâque est vraiment une fête en l'honneur du sauvetage miraculeux de Dieu. Et imaginez juste avec ce qui vient de se passer, le Jourdain qui s'ouvre devant eux, Dieu qui relance leur alliance, ils commencent à célébrer la Pâque qu'ils attendaient depuis tellement longtemps, mais ça devait battre dans leur cœur. Et c'est comme ça qu'ils mangent pour la première fois des produits du pays, manger ce pain, ces épis grillés. Et le lendemain de la Pâque, la manne, c'est ça. Maintenant, ils ont de quoi vivre. Dieu leur a donné ce pays. Ils peuvent récupérer les denrées du pays. Et finalement, ils passent de cette dépendance qui était alimentaire, où la manne tombait tous les jours, à cette dépendance à Dieu pour militairement conquérir ce pays. Et pour nous, c'est un encouragement à nous rappeler que Dieu accomplit assurément son sauvetage en prenant en compte de tous les paramètres. Il veille à ce qu'on ait à manger, à boire, qu'on soit en sécurité et qu'on arrive à destination auprès de lui. Et pour nous, c'est la même chose. Jésus, c'est notre Pâque. Jésus est venu pour sceller cette nouvelle alliance avec nous et c'est pour cela qu'il a accepté de souffrir, de mourir à la croix. Et aujourd'hui, nous sommes aussi dans cette attente, comme cette génération, de pouvoir de nouveau célébrer la Sainte Cène avec Christ dans l'éternité. Et nous aussi, nous sommes dans cette attente et nous savons que Dieu est fidèle. Et c'est pour ça que je vous invite vraiment à ce qu'on puisse se rappeler que nous avons à obéir à un Dieu qui est protecteur, à un Dieu qui est fidèle, à un Dieu qui veille à tous les détails de notre quotidien. La dépendance avec Dieu demeure, mais maintenant il est question de conquérir ce pays. Et cette conquête, elle se fait par les moyens militaires. Et nous allons voir que Dieu, il est souverain aussi pour cela. Verset 13, « Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée dégainée dans la main. Josué alla vers lui et lui dit, « Es-tu pour nous ou pour nos ennemis ?» L'homme lui répondit, « Non, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. » Josué tomba, le visage contre terre, adora et dit, « Que dit mon Seigneur à son serviteur ?» Le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « Enlève tes sandales de tes pieds, car l'endroit où tu te tiens est saint. » Josué se conforma à cet ordre. Josué, là, il est en train de vivre quelque chose de fort. Il est en présence d'un ange. Certains pensent que c'est même Jésus lui-même qui est présent là. Et Josué, ben, peut-être ce matin-là, il était simplement en train de se promener dans la campagne, mine de rien, pour préparer l'invasion, repérer les alentours du siège. Et là, il fait une rencontre qui va bouleverser complètement sa journée. Peut-être pour quelqu'un parmi nous, peut-être quelqu'un qui nous suit peut-être sur Internet, lui aussi aujourd'hui, ça va peut-être être cette rencontre avec Dieu qui va le bouleverser pour toute sa vie. Et c'est là qu'on voit justement une question qui est vraiment fondamentale pour chacun de nous et peut-être aussi pour quelqu'un qui ne connaît pas encore Christ. Ce jeu de dialogue, es-tu pour nous ou pour nos ennemis ? Non, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. « Enlève tes sandales de tes pieds, car l'endroit où tu te tiens est saint. » Et je trouve qu'ici, il y a quelques enseignements précieux dans ce texte. Tout d'abord, Dieu n'est pas à notre service, mais nous sommes au service de Dieu. Dieu n'est pas à notre service, mais nous sommes au service de Dieu. Dieu n'est pas un distributeur automatique de bénédictions. Nous ne pouvons pas forcer la main de Dieu. Nous sommes serviteurs de Dieu. Nous avons à obéir Dieu. Et nous avons à prier selon la volonté de Dieu. Et justement, je pense que ce matin, c'est peut-être l'occasion d'avoir une réflexion sur notre façon de prier. C'est vrai que je suis premier à dire, quand on prie Dieu, il faut vraiment avoir ce cœur à cœur, dire les choses et être dynamique. Et parfois, on peut dire une bêtise, c'est pas grave. Par contre, si de manière récurrente on est là pour forcer la main à Dieu, dire je décide que tu dois faire ceci, cela et ainsi de suite, je pense que ce n'est pas comme ça que nous avons à avoir notre relation avec Dieu. Nous pouvons avoir beaucoup de passion dans nos prières, mais nous n'avons pas à forcer la main de Dieu. Aussi, c'est une question je pense pour chacun d'entre nous et peut-être c'est une question, ou peut-être si nous on croisait l'ange de l'Éternel aujourd'hui, il nous dirait peut-être, es-tu pour Dieu ou es-tu à ton propre compte ? Es-tu pour Dieu ou es-tu à ton propre compte? Ou peut-être même, aujourd'hui, tu es pour le compte des ennemis de Dieu. Nous avons besoin de nous positionner. Dieu est avec ceux qui lui obéissent. Dieu a fait la promesse qu'il sera avec Josué, tout comme il a été avec Moïse. Et là, on le voit avec l'ouverture de la mer morte. Mais aussi là, on le voit avec... Vous vous souvenez de Moïse avec le buisson qui, ardent, qui est en train de brûler, et aussi qui vit ce temps de, où Dieu lui parle directement. Et ça nous rappelle que Dieu est saint, Dieu se révèle, Dieu est avec ceux qui lui obéissent, et Dieu est fidèle dans son alliance. Aussi que Dieu va juger ceux qui lui sont rebelles. Alors, c'est là peut-être au moment clé de l'ouverture de l'invasion de Canaan, on peut se poser la question, mais est-ce que Dieu, c'est vraiment un Dieu guerrier comme ça, un Dieu qui assume un génocide, de tuer toutes ces personnes? Et je vous propose simplement qu'on puisse réfléchir un peu à cela. Tout d'abord, pourquoi Dieu punit-il les Cananéens? Et là, on peut se poser la question, qu'est-ce qu'il leur reproche? Et là, vous le trouvez dans Lévitique 18, 20. Vous aurez l'occasion peut-être de creuser ça dans les groupes de maison. Il y a un guide qui a été donné à tous les responsables. Si jamais vous n'allez pas dans un groupe de maison, vous pouvez m'envoyer un message, je vous enverrai aussi le petit guide. Mais ce qui est reproché, c'est la fornication, l'adultère, l'inceste, la prostitution et toutes sortes de déviances sexuelles que je ne vais pas détailler ici. La magie, l'invocation des morts. Aujourd'hui, c'est une bonne question, l'invocation des morts, justement. Le sacrifice des enfants, l'adoration des idoles, tout cela, Dieu leur reproche. Quel sort doivent subir les habitants de Canaan? C'est décrit dans Deutéronome 7. Je vais vous faire quelques informations dessus. Verset 2, tu ne concluras pas d'alliance avec elles et tu ne leur feras pas grâce. 16, tu supprimeras tous les peuples que l'Éternel, ton Dieu, va te livrer. Ton regard sera sans pitié envers eux. Verset 23, l'Éternel, ton Dieu, te livrera ces nations et il les mettra complètement en déroute jusqu'à leur destruction. 24, tu feras disparaître leur nom de dessous le ciel. Alors, est-ce que c'est un génocide? On va voir justement qu'il y a peut-être une petite variante. En Lévitique 18, il est demandé à Israël de ne pas se marier avec leurs filles, les filles des Cananéens, et de ne pas faire de commerce avec eux. Donc là, je me pose juste la question, mais comment ils ont fait pour avoir la possibilité de se marier avec des descendants d'un peuple qui n'existe plus? Quelqu'un a une réponse à ça? Pourquoi Dieu, après ça, il leur dit de ne pas se marier avec eux alors que normalement, ils ne sont plus là? Et là, justement, nos amis journalistes sportifs vont nous aider. Est-ce que vous avez déjà lu un journal sportif, par exemple L'Équipe? Je crois qu'il y a quelques footballeurs parmi nous quand même. Oui. Alors, vous qui êtes expert du domaine, s'il y a écrit « Les attaquants ont été torturés par la défense », est-ce qu'ils avaient des tenailles et du matériel électrique pour les torturer? Répondez-moi oui, non.
Non.
Non, vous avez la bonne réponse. Si par exemple, il y a écrit « L'équipe est anéantie suite à la défaite 7-0 », est-ce que vous pensez que le capitaine les a tous... Non. Oui. Là, c'est un peu pareil. En fait, il faut savoir que les livres de la Bible, en fait, ont été inspirés par Dieu, mais étaient rédigés par des auteurs différents, mais aussi avec un style littéraire qui correspond à ce qui est évoqué. Donc par exemple, si vous lisez le livre de, je sais pas, par exemple, l'Évangile de Jean, c'est très poétique. Si par exemple, là on est dans Josué, ben, c'est des faits militaires. Donc c'est rédigé dans le style des faits militaires. Vous lisez le Cantique des Cantiques, c'est plutôt érotique. Et si vous preniez Josué dans le Cantique des Cantiques dans le style littéraire, ça irait pas du tout. Oui, vous me suivez. Et là, c'est un peu pareil. Donc, il y a le style littéraire d'un livre, il est très important parce que parfois, ça permet de comprendre que parfois, il y a des exagérations qui sont volontaires mais qui correspondent aussi au style littéraire. Et là, il est question de victoire militaire. Il y a une exagération volontaire sur le fait d'insister sur une vérité fondamentale. Il n'y a pas de compromis. Et pour nous aussi, je pense que l'obéissance, c'est une obéissance sans compromis. Dans la pratique, il est prévu dans le livre de Lévitique que des personnes originaires de Canaan vivent avec le peuple d'Israël dans le quotidien. Et ces phrases sont à juste titre choquantes et elles sont faites pour choquer hier, et encore plus aujourd'hui. Mais est-ce que nous sommes autant choqués des compromis que nous faisons dans notre quotidien avec Dieu? Est-ce que nous sommes choqués de cela? Et justement, ce texte-là est là pour nous choquer de ces compromis que nous faisons dans notre quotidien, dans notre obéissance à Dieu. Jésus n'a-t-il pas dit d'aimer nos ennemis? Oui, Jésus indique que ce n'est pas à nous de nous venger, mais c'est Dieu qui rendra la justice. Et c'est ce que nous attendons sur la fin des temps. Dieu est patient aujourd'hui, et la patience de Dieu, ici, nous la voyons bien. La patience de Dieu est immense avec les Canaans, avec les Cananéens. Dieu a annoncé dans le livre de la Genèse, par Noé, le jugement de Canaan. Donc c'est au moins 1800 ans avant l'arrivée de Josué. Vous avez 1800 années pour se repentir. Entre-temps, Dieu s'est révélé aux Cananéens, et ils ont eu l'opportunité de se repentir. Vous vous souvenez, il y a Melchisédek et Abraham qui ont séjourné là-bas et qui ont pu leur témoigner. Il y a eu la destruction de Sodome et Gomorre qui a été un avertissement très solennel, très puissant. Mais les Cananéens, et là on le voit aussi avec ces rois, ils sont conscients que Dieu arrive, qu'il y a la puissance qui est là, mais ils restent sourds à la voix de Dieu. Ils s'entêtent à persévérer dans le mal et la désobéissance à Dieu. Et il dit cela dans Genèse 15, 16, Dieu patiente jusqu'à ce que leur iniquité merci, soit arrivée à son comble. Et avant d'exécuter ce châtiment, Dieu envoie encore ce message lorsque le Jourdain s'ouvre pour qu'il puisse se repentir. Mais Dieu a toujours laissé la possibilité à des personnes comme Rahab et à sa famille, par exemple, de se repentir pour être sauvés et même intégrés au peuple, en relation avec Dieu. Mais aujourd'hui aussi, Dieu donne encore sa patience. Peut-être tu penses que tu as fait des grosses bêtises dans le passé, mais la patience de Dieu est encore là et son amour pour toi, il est immense. Si tu acceptes ce matin de dire « j'abandonne tout ça, je veux te suivre toi, je veux t'obéir, je sais que tu as quelque chose de bon pour moi », Dieu viendra à ta rencontre. Et cela, nous sommes tous concernés. Nous avons tous besoin d'abandonner nos mauvaises actions pour obéir à Dieu. Et c'est nécessaire et indispensable pour être sauvé. Quelqu'un qui dit « j'appartiens à Jésus » sans jamais s'être repenti, il n'appartient pas à Christ. Obéissons à Dieu parce qu'il est souverain. Et on va voir la dernière partie, donc c'est le chapitre 6. Donc on va faire des petits sauts dans les versets, on ne va pas tout prendre, c'est un peu long. Dieu est victorieux. Jéricho était fermé, barricadé devant les Israélites. Personne n'en sortait et personne n'y entrait. L'Éternel dit à Josué, « Regarde, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ainsi que ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Tu agiras ainsi pendant 6 jours. 7 prêtres porteront 7 trompettes retentissantes devant l'arche. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les prêtres sonneront de la trompette. Quand ils sonneront du cor retentissant, quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris, alors la muraille de la ville s'écoulera et le peuple montera à l'attaque chacun devant soi. Pendant 6 jours, Israël va terrifier son ennemi en défilant dans le silence au seul bruit des trompettes. Là encore, ils avaient le temps de se repentir. Et au 7e jour, l'armée fait 7 fois le tour. Et à un moment, les soldats brisent le silence avec des cris puissants. Est-ce que vous avez un cri puissant ce matin? Allez-y, va. Ouais, on va essayer. Alors, on fait 1, 2, 3 et on fait un cri puissant. Hein. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Ah, désolé si on a réveillé quelqu'un. Et ça, c'est un cri puissant. Et à ce moment-là, la muraille s'écroule. Les soldats de Jéricho qui s'attendaient à tenir un siège peut-être pendant des semaines et des mois, les murailles dans lesquelles ils voulaient se cacher s'écroulent. Les Israélites foncent et rentrent dans la ville. Et Israël a fait le choix de l'obéissance et la dépendance à Dieu. Et Dieu les a protégés. Jéricho a fait le choix de se cacher derrière des murailles. Et les murailles se sont écroulées. Pourquoi Dieu a fait ainsi? Dieu a fait ainsi pour protéger ces soldats qui étaient inexpérimentés, pour rappeler à Israël qu'ils avaient besoin aussi de lui obéir, que les autres nations de Canaan ont à se repentir et rendre gloire à Dieu seul. Et sans écouter Dieu, le résultat, il aurait été vraiment très différent. Lorsque l'on obéit à Dieu, en restant dans sa dépendance, on peut expérimenter l'impossible. Ça s'appelle un miracle. Mais pour cela, il faut lui obéir. Et en restant dans des fausses sécurités, dans un confort qui est assez artificiel, et je pense qu'aujourd'hui, on est en train de découvrir ça. Il y a encore un an, on n'aurait jamais imaginé qu'on ait besoin de faire autant attention à garder tout en un masque, à se laver en permanence les mains, à ne pas pouvoir se saluer. Et aujourd'hui, on découvre que tout ça, c'est juste Dieu qui nous préservait de beaucoup de maladies, finalement. Mais sans ces défis, nous ne pourrions pas expérimenter l'obéissance et la dépendance de Dieu. L'obéissance nous rapproche de cette image qui est glorieuse à la ressemblance de Christ. Tandis que la désobéissance, elle nous amène à la destruction. Désobéir à Dieu n'a rien de glorieux, n'est aucunement un dépassement de soi-même, mais c'est une passive autodestruction. Et aujourd'hui, notre défi, ça consiste peut-être à réfléchir dans ces domaines dans lesquels nous n'obéissons pas à Dieu. Ces domaines où peut-être nous sommes aussi passifs pour pouvoir dire, dans ce domaine-là, je veux obéir à Dieu. Je ne veux plus être passif. Parce que finalement, quand on se pose la question de ces domaines où on n'obéit pas à Dieu, où peut-être on est passif, est-ce que ça nous rend vraiment heureux? Est-ce que ça nous épanouit? Est-ce que ça nous donne la paix? Est-ce que ça donne un sens à nos vies? Je pense qu'on a tous des images des choses où on n'obéit pas à Dieu. Est-ce qu'on y prend vraiment du plaisir? Non. C'est éphémère et après on regrette. Mais c'est seulement dans l'obéissance à Dieu qu'on peut vraiment trouver cette joie et cette paix. Et dans le psaume 119, il est dit cela. « Conduis-moi dans le sentier de tes commandements, car je l'aime. Pousse mon cœur vers tes instructions et non vers le profit. Détourne mes yeux de ce qui est sans valeur. » Fais-moi vivre dans ta voie. Et je pense que c'est une prière qu'on pourrait peut-être faire plus souvent, personnellement. Je veux vivre pour toi. Je trouvais de la valeur dans ce qui a de la valeur à tes yeux. Et l'obéissance est nécessaire afin que nous trouvions notre place dans le plan de Dieu, mais aussi que nous donnions à Dieu la place qu'il mérite dans nos vies. L'obéissance est nécessaire pour que nous trouvions notre place dans le plan de Dieu et que nous donnions à Dieu la place qu'il mérite dans notre vie. Et la ville est vouée à l'interdit, donc c'est-à-dire que tout ce qui s'y trouve, ça sera mis dans le trésor du temple de Dieu. Et que tout ce qui est des habitants, mais aussi des animaux, et ainsi de suite, ils sont amenés à être détruits. Mais en cela, la maison de Rahab est sauvée. On laisse ça, la vie à Rahab, la prostituée, tous ceux qui seront avec elle dans sa maison, parce qu'elle a caché les messagers que nous avions envoyés. Jéricho est la première ville de Canaan qui est conquise, et Dieu envoie un message fort à tous les autres pour amener à la repentance. On verra dans les autres chapitres, justement, qu'il se passe des choses, il y a du remous, et ils ne sont plus dans la passivité, ils se positionnent clairement pour ou contre l'Éternel, parfois de la mauvaise façon aussi, on verra ça. Mais le but de Dieu n'est pas de détruire. Le but de Dieu, c'est de donner la paix, la justice. Et pour cela, la repentance, elle est indispensable. Et la question que je nous pose, c'est est-ce que Dieu a la place d'honneur dans ma vie? Est-ce que Dieu a la place d'honneur dans ma vie? Dieu est-il à l'honneur dans ma façon de parler, dans ma façon de consacrer mon temps, mes finances, le temps que je consacre aussi dans le service dans l'Église? Est-ce que je le fais avec le bon cœur? Est-ce que je le fais avec vraiment pour Dieu ou pour moi, pour trouver mon identité ou ce genre de choses? Ou est-ce que je fais tout cela simplement parce que c'est la place que mérite Dieu dans ma vie? C'est seulement lorsque l'on place Dieu en premier que les autres bénédictions, on peut les recevoir, mais aussi les apprécier. Et Rahab en est l'exemple. Elle a été secourue par les espions qui sont retournés chez elle et l'ont extirpée de la ville avec ses frères, sa mère, son père et tous ses biens. Et elle a été intégrée au peuple. Et Rahab a été accueillie, elle s'est mariée avec Salmon, c'est ce qu'on a vu la dernière fois. Et elle est même citée dans la généalogie de David et de Jésus. Comme quoi, peu importe le passé, peu importe d'où on vient, Dieu peut nous restaurer, nous donner un avenir qui est glorieux avec lui. Et Dieu restaure et donne un avenir à ceux qui se repentent et lui obéissent. Et finalement, ça se termine ainsi, sur une note qui est vraiment particulière, c'est Josué qui maudit. Maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour reconstruire cette ville de Jéricho. Il y en jettera les fondations au prix de son fils aîné et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. L'Éternel fut avec Josué et l'on parla de lui dans tout le pays. Josué termine cet épisode par une malédiction sur la personne qui rebâtira les fortifications de la ville. Sur le principe, il n'y a aucun problème que quelqu'un revienne habiter dans la ville, mais le problème, c'est de rebâtir les fortifications. Pourquoi ? Parce que Jéricho est symbole de la protection que Dieu donne à son peuple. C'est une protection qui ne se trouve pas dans ses murailles. Jéricho est le témoignage de l'intervention miraculeuse de Dieu, et c'est pour ça que les ruines devaient rester là, pour se rappeler que c'est Dieu qui a conquis ce pays. Jéricho est aussi le symbole que Dieu a promis ce pays et que tout le monde puisse y rentrer, tout le monde puisse intégrer ce peuple. Fortifier la ville, ça donnerait un monopole à quelqu'un de dire « toi, tu peux rentrer ou pas dans le pays ». Et ça, moi, ça m'a interpellé, c'est peut-être une application un peu indirecte, mais parfois, surtout quand on est chrétien de longue date, vous savez, on a l'impression aussi parfois de prendre un peu ce monopole, de savoir qui peut être en relation avec Dieu, qui peut être invité à rencontrer Dieu, qui peut être invité à participer à un culte. Et nous oublions que l'Évangile, elle est vraie, elle est faite pour tout le monde, y compris des personnes qui peut-être on ne les aurait pas forcément invitées, comme peut-être une rabe ou quelqu'un comme ça. Ça nous rappelle que nous n'avons pas ce monopole de choisir qui peut rencontrer Christ. Ça nous rappelle aussi, et c'est bon de le rappeler, je pense, d'autant plus dans la circonstance actuelle, que la protection ne se trouve pas dans nos propres forces, dans des assurances ou dans tous les efforts qu'on peut faire, mais en Dieu seul. Et c'est pour ça que je nous invite vraiment à obéir à Dieu, parce qu'il est victorieux. Et peut-être pour résumer tout ça, c'est que c'est un appel à nous émerveiller, non pas de la force d'un homme ou d'un peuple qui accomplirait des actions héroïques, mais nous émerveiller devant Dieu. Dieu est souverain, Dieu est tout-puissant, Dieu est fidèle, Dieu est saint, Dieu est le juste juge. Mais Dieu nous demande une obéissance qui est inconditionnelle, de conserver aussi l'unité pour avancer ensemble comme ce peuple, de rester pur, de ne pas accepter de nous souiller en prenant des choses qui ne nous appartiennent pas, par exemple, de placer Dieu en premier en tout à la place d'honneur. Obéir à Dieu, c'est impossible aussi. Et ça aussi, il faut le savoir. Il y aura toujours des choses où on n'arrivera pas à faire comme on le souhaiterait de nos propres forces. Et c'est là où il y a des personnes parfois qui commencent à fréquenter Dieu, qui commencent à fréquenter l'Église, et au bout d'un moment se rendent compte « mais j'arrive pas !» Parce qu'on essaye de faire avec nos propres forces. Et ça devient juste du légalisme, on essaie de faire bonne figure. Mais en fait, non, c'est pas ça. Nous avons besoin que le Saint-Esprit nous dirige. Nous avons besoin de nous repentir semaine après semaine pour ressembler de plus en plus à Christ, pour refuser de plus en plus les passions qui nous détruisent. Et c'est pour ça que je vous propose vraiment qu'on puisse terminer par ce temps pour prier, que Dieu nous donne la force de lui obéir en tout point. L'obéissance et la dépendance à Dieu sont nécessaires pour conquérir l'héritage et recevoir les bénédictions. Oui, Père, ce texte nous rappelle que toi, tu es Dieu tout-puissant, tu es Dieu qui règne, le Dieu qui est souverain sur toutes les nations, sur tous les souverains, sur toutes les puissances militaires, économiques et ainsi de suite. Mais nous savons que toi, tu es ce Dieu qui est créateur, qui est tout-puissant. Et nous nous adressons à toi et nous te demandons, s'il te plaît, de nous donner des forces nouvelles pour lutter, pour mener ce bon combat, de t'obéir, de te suivre, de te ressembler, de renoncer à ce qui nous amène à te désobéir, à nous souiller et nous ôter de ta sainteté. Seigneur, s'il te plaît, agis ce matin au milieu de nous. Viens trouver nos cœurs et révèle-nous les domaines dans lesquels nous avons à lutter. Donne-nous des forces nouvelles, donne-nous de l'humilité pour le reconnaître, pour aussi peut-être être accompagné par un frère ou par une sœur qui nous encourage lorsque nous chutons. Seigneur, ce matin, je veux te prier aussi particulièrement pour ceux qui peut-être ont chuté. depuis des semaines, des mois, peut-être des années, qui ne fréquentent plus d'église, qui ne te parlent plus, qui peut-être ont commis des actes qu'ils regrettent et ils n'osent plus se présenter devant toi. Ce matin, Seigneur, s'il te plaît, donne-leur des forces nouvelles pour qu'ils puissent saisir cette main qui est tendue par toi. Il n'est jamais trop tard jusqu'à ton retour pour s'accrocher à toi. Seigneur, s'il te plaît, interviens dans notre église pour que nous soyons cette église qui soit obéissante, pure, unie, qui soit centrée sur toi et que tu aies la place d'honneur dans la vie de chacune des familles de notre église, dans les décisions de notre église. Seigneur, s'il te plaît, interviens au milieu de nous. Nous te prions ainsi dans le nom de Jésus-Christ. Amen.